Cobuzz.com. Rencontre
haute fidélité
par Marc Zisman.
Bonjour Edgar Morino.
Monsieur Marc, bonjour.
Edgar Morino, vous êtes Monsieur Connemara, on pourrait dire.
Oui.
Votre nom est lié à la haute fidélité depuis maintenant plusieurs années, mais on pourrait dire que c'est un peu une haute fidélité autre ou différente. On va évidemment parler de tout ça. Une fidélité, haute fidélité qu'on peut déguster dans un auditorium lui aussi un peu différent, un peu à part. On va évoquer un peu ce parcours. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu tenté de savoir quand on commence à s'engager dans une telle direction et à faire sa carrière professionnelle là-dedans. J'imagine qu'au début c'est quand même une histoire avant tout de musique, avant d'être une histoire de son ou de fidélité. Donc j'imagine que vous êtes mélomane, on pourrait dire, avant d'être audiophile. C'est quoi vos premiers, tout premiers souvenirs, vos premières excitations musicales ?
Le premier souvenir, il remonte à... J'avais 5 ans, c'est pas hier. Puisque mon père était déjà là-dedans, faisait de la musique, aimait la musique. Donc moi, à 5 ans, j'ai entendu Django Reinhardt, Beethoven, Ferré, à ses débuts, Brassens, bien évidemment. Et puis ça ne m'a jamais quitté. Donc ça fait un demi-siècle que ça dure, cette histoire, pour faire court. Après, ben, le côté artiste, il ressort nécessairement, puisqu'au-delà de la... De la musique, il y a la peinture, il y a la sculpture, il y a la gastronomie aussi, qui fait partie pour moi de même process de réflexion, même envie, même passion, voilà. Tripoter la matière, jouer avec les éléments, les odeurs, les couleurs, ça rythme la vie, je pense, voilà.
Est-ce que ces premiers émois artistiques ou même musicaux, pour reprendre les noms que vous venez de citer de musiciens, de chanteurs ou de compositeurs, est-ce que c'était également lié à une sensibilité aux problématiques de son ? Ou est-ce que ça, c'est venu plus tard ?
C'est-à-dire non, c'est venu plus tard, ça. Moi, je mangeais de la musique comme aujourd'hui, les mômes bouffent du coca, des hamburgers, quoi. C'est la consommation... comment je pourrais dire, non contrôlée, quoi. Juste la sensation, quoi. L'émotion, la sensation. Et puis après, bah, c'est comme le reste, on se cultive ou on ne se cultive pas, on avance ou on n'avance pas, on s'enrichit ou pas, voilà. C'est le parcours d'une vie, quoi.
C'était lié aussi à une gloutonnerie du support lui-même, c'est-à-dire du vinyle par exemple au début ?
Ah non, pas le support, pas une gloutonnerie, parce que quand on était môme, on va pas dire qu'on est des enfants de la guerre ou le lendemain de la guerre, mais quasiment, on ne dépense pas beaucoup d'argent. D'abord, on n'en a pas bézef, et puis quand on en a un petit peu... On le met vraiment dans des priorités. Même moi, à 14 ans, c'était une priorité d'acheter des disques. Voilà.
C'est quoi les premiers disques que vous avez achetés quand vous avez cassé votre tirelire,
les premiers investissements surdimensionnés, c'est toute la collection Rhythm and Blues, formidable Rhythm and Blues et ainsi de suite. Toutes les compiles de chez Tamla Motown, Atlantic, Atco et voilà, tous ces labels américains. Ça a commencé comme ça. L'achat des disques, ça a commencé comme ça, voilà.
Et comment on passe de l'autre côté de la barrière ?
Quand vous achetez des disques, vous essayez de trouver du matériel pour poser vos disques dessus ou dedans. C'est essayer comme tout le monde. Vous bricolez parce que vous n'avez pas de sous. Pas trop, tellement peu que vous ne pouvez pas vous acheter ce qui vous fait fantasmer. Puis après, vous gagnez un peu de sous et puis vous revenez. C'est comme l'étudiant en médecine. Hein. La plupart du temps, le gars il s'est saigné pendant 10 ans pour acheter une petite chaîne qui coûterait aujourd'hui... je dirais 1 500 €. Puis quand il a pignon sur rue, quand il a sa plaque sur la porte, il a un peu plus de fric, là il se lâche. Et là il s'achète une belle machine. Enfin, en théorie, une belle machine. Si possible, une bonne machine, voilà. Donc la connexion, elle est facile. Hein. On aime la musique, et ben, le support, la reproduction sonore, on essaie de trouver un système qui donne satisfaction. Et là, ça commence à être la... J'allais dire, c'est un peu le parcours du combattant.
Au début, vous avez dit le mot rêver, il y a des choses qui me font rêver. C'était quoi les marques,
les choses qui vous faisaient rêver? Les fantasmes, à 20 ans, c'est BO, pour le design. Je me suis dit, c'est un aspect, c'est une gueule d'enfer, ces trucs-là. C'est dessiné comme une Ferrari ou une belle bagnole. Ça fait rêver. Et puis après, ben, on passe à autre chose, parce que BO, c'est beau.
Comme son nom l'indique.
Voilà. Après, on cherche à rajouter la lettre N à BO, et puis voilà. C'est comme ça qu'on travaille, ou j'essaye de travailler. L'idée de faire commerce, je déteste l'appellation commerce dans mon secteur d'activité, parce qu'avant tout, c'est une passion. Alors évidemment, il y a, on va dire, un acte commercial. Les gens achètent un élément ou plusieurs éléments, mais ça va au-delà de ça. C'est pour ça que je n'ai pas voulu de magasin. J'ai construit un auditorium chez moi. Je reçois les gens à mon rythme, avec mes envies, quelquefois avec mes humeurs aussi, bien sûr. Et j'essaye de leur proposer ce qui me semble, encore une fois, bon.
Est-ce que ça, cette feuille de route, c'était la même au tout début, l'épisode 1, on pourrait dire ?
Non, ça s'est modifié, bien entendu. Parce que j'ai...
Comment s'est passé justement au tout début ? C'est-à-dire, quand vous avez vraiment décidé de vous engager dans cette direction, c'était quoi votre objectif ? Qu'est-ce que vous vouliez faire ? Comment ça se passait par rapport à ce qui existait déjà ?
Au début, j'ai travaillé en amateur, c'est-à-dire plutôt comme conseil auprès d'amis ou de relations qui voulaient s'acheter... acheter un lecteur CD ou un lecteur de cassette à l'époque, ou un magnéto à bobine ou une platine vinyle. Donc j'étais tellement avide, et puis j'avais pas la possibilité d'acheter ce que eux pouvaient s'acheter, je faisais du conseil, voilà. Puis après j'ai eu la chance d'avoir un job qui m'a largement nourri, et je suis revenu à une passion, voilà, sans limite. La danseuse, quoi.
Vous avez dit au tout début, oui, je bricolais parce que je n'avais pas les moyens.
Oui, faire des enceintes, ouais, des enceintes, comme tout le monde. Ouais. On en achète des HP, et puis on met ça dans une caisse avec des liaisons un peu hasardeuses. Et puis on est le roi du pétrole. On pense qu'on a réinventé la haute fidélité, comme les gens aujourd'hui d'ailleurs.
Vous les avez gardés dans un coin de chez vous ?
Non, non. Ça c'est parti en fumée, ça. Voilà. Les déménagements ont fait aussi. Mais l'histoire, elle est simple. C'est l'histoire d'une passion, d'une vie, voilà. Comme la littérature ou la peinture pour certains, ou d'autres hobbies ou loisirs. Voilà.
Comment vous voyez à l'époque le monde justement de l'audiophilie ? C'est vrai qu'on a, il y a toujours un peu ce côté lié à une donnée économique qui en fait parfois une sorte de club de fumeurs de cigares. C'est vrai, quand on voit l'approche Connemara, c'est pas trop ça. Donc est-ce qu'il y avait aussi presque un côté, j'allais dire presque politique, enfin, par rapport à un engagement, pas esthétique, mais d'une certaine manière?
Alors on va dire que les années 70 en France ont vu le développement d'une espèce d'ésotérisme, hein. Voilà, appelons ça comme ça, des machines venant de tous les bouts de la planète, j'allais dire les coins de la planète, mais sachant qu'elle est ronde, c'est difficile de dire les coins de la planète. Mais vous aviez du matériel à japonais. Les Japonais en 70, c'était très émergent, je veux dire, en technologie, en savoir-faire, en possibilités industrielles aussi. Les Américains, qui avaient une espèce de puissance de feu aussi là-dessus, c'était pas totalement mon goût. Les Anglais, qui ont toujours, d'ailleurs, je pense que les... En haute fidélité, l'Angleterre a peut-être je pense à une marque comme Tannoy, les enceintes anglaises. Je crois que c'est la plus vieille marque de haute fidélité sur la planète, je pense. Hein. Je voulais dire quoi dans ma belle parabole, là, que c'était, vous parliez de fumeur de cigare, moi je fume le cigare, alors c'est pas un problème. Je pense que ça va au-delà du fumeur de cigare.
Mais il y avait un côté club un peu restreint, gens finalement qui parlaient plus de son que de musique.
Ah, mais c'est exactement
avait,
ça.
Effectivement, qu'il y avait le compte en banque bien blindé, il fallait l'utiliser.
C'est exactement ça.
On impressionnait son voisin en disant, regarde,
c'est exactement
ça. Il y a plein d'ampoules au-dessus de mon ampli, toi tu les as pas, etc.
Après, il y a eu la cuisine aménagée, après, il y a eu le spa, après, il y a eu, dans les les phénomènes de mode, le home cinéma, une catastrophe écologique au niveau de l'audio.
Et souvent, ces gens avaient en général deux ou trois disques qui étaient à côté.
Ça, c'est le parcours du, c'est le parcours du, de l'audio, pas de l'audiophile, du hi-fiste, du hi-fiste fortuné. C'est-à-dire d'acheter, si possible, ce qu'il y a de plus cher, donc plus rare, évidemment, mais pas forcément. Pas forcément le meilleur. Et je pense que le meilleur n'est pas dans le plus cher, tout simplement.
Au début, comment ça s'est passé? Vous êtes engagé là-dedans. Comment se faisait le choix des marques de ce que vous vendez?
Ça a été assez facile parce que à me promener dans les salons. À l'époque, il y avait encore des vrais salons parce qu'il y avait des passionnés. Il y avait des commerçants passionnés, hein, certes, mais il y avait des vrais salons. Je me souviens des Concours de Lafayette ou des endroits comme ça, où on présentait du matériel qui était quand même un peu inaccessible. Voilà. Ça donnait envie. Après, j'ai appris, justement en fréquentant, en écoutant, et j'ai eu la chance de rencontrer un mec formidable qui avait un magasin qui s'appelait magasin.org. Que tout le monde doit connaître. D'ailleurs, les vrais mélomanes connaissent ça. Ça jouxtait la salle Pleyel, donc c'était un endroit miraculeux. Les gens sortaient du concert, pendant l'intermède, se baladaient dans le magasin, au sortir du concert, faisaient le plein de disques et tout. C'était un endroit magique. Et le bonhomme avait, ce qui m'a beaucoup plu dans sa démarche, les moyens de se faire plaisir. C'est-à-dire, l'argent n'intéressait pas. Il n'avait pas besoin d'argent pour vivre. Donc il faisait vraiment ça pas en mécène, mais
presque.
Presque, voilà. Je sais qu'il recevait des mômes, à l'époque c'était le jeudi, avant de passer au mercredi. Il faisait des petites réunions, il prenait 20 mômes, il les installait dans son antre au sous-sol, et hop, il leur parlait de musique pendant des heures. Ça aurait pu durer des jours, ça aurait pu durer des mois. Voilà, c'est ce côté passionnant, et surtout la culture du bonhomme, et puis son côté aussi un peu anard qui m'a plu, hors piste, voilà. On fait pas comme tout le monde.
Prêcheur anard.
On emmerde. Nous, on pense que c'est bien comme ça et on s'en fout. Le marketing, on s'en fout. La pub, c'est un accessoire. On n'y échappe pas, mais si on peut, on n'a pas forcément l'idée de s'acoquiner, voilà. On reste. Moi, je pense qu'encore aujourd'hui, je reste libre. Libre de mes choix, libre de ma façon de travailler. Quelquefois, j'ai un peu une grande gueule. Je dis ce que je pense, voilà. Ça me plaît, ça me plaît pas. Mais je rentre pas dans le moule. Et je suis en train de resserrer mon job. Plus ça va, plus... c'est peut-être parce qu'en vieillissant, on devient de moins en moins costaud. J'ai pas envie de me trimballer des trucs qui pèsent 100 kilos, des espèces d'installations qui sont des démonstrations de force, en fait. Qui, la plupart du temps, font moins de musique que des petits systèmes bien foutus. Voilà. J'ai envie de resserrer un peu là-dessus. Je me suis fait plaisir. Hein, à 30 ans, tout le monde rêve de rouler en Aston Martin ou en Porsche ou en Ferrari parce que c'est beau, parce que ça ronfle et tout. Et puis à 60 balais, on n'a plus physiquement les moyens de piloter une bagnole. D'abord, on ne peut plus. Bon, donc ça, comme ça, c'est clair. C'est même pas le prix d'essence qui est rédhibitoire. Je pense que c'est la forme physique et puis toutes les interdictions. Donc pour en revenir au système de reproduction sonore, pour moi c'est comme une recette de cuisine. On essaye de repérer de bons éléments, des éléments qui ont des qualités intrinsèques. Vraiment, on sait que chaque maillon marche, enfin ne marche pas, fonctionne, est capable de reproduire. Après on associe, et là ça devient un peu plus casse-gueule, on associe les éléments, on essaye de les faire cohabiter le mieux possible. Encore une fois, l'analogie c'est vraiment pour moi la cuisine. Après l'équilibre ça vient de petites choses subtiles, hein, la touche finale, le tour de poivre ou de sel sur le plat, voilà, ça c'est mon job. Plus l'intégration aussi du système dans la pièce, c'est fondamental, on le sait, tout le monde l'oublie. L'acoustique d'une pièce, c'est au moins 50% du résultat, au moins 50%. Si vous prenez un chanteur, un beau piano et vous le faites sonner dans une mauvaise pièce, bah, votre piano, ça peut être un Model D, un beau Steinway, ou peu importe, un Guarneri, peu importe, un Selmer, un Saxe, chose comme ça, votre truc, il va sonner bizarrement. Et de temps en temps, vous vous rendez compte que dans les... Par exemple, dans les couloirs du métro, vous avez une acoustique extraordinaire. Il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose de magique. Alors que la plupart du temps, vous allez dans un studio d'enregistrement, vous dites, tiens, c'est clean, c'est aseptisé, et voire déshumanisé.
Ces problématiques de lieu, vous les aviez quand vous avez construit le, en 1995 l'auditorium ?
Le premier auditorium, oui, vraiment, qui a été fait en 1995, c'était pour accueillir une marque, d'ailleurs une marque alsacienne, que j'ai défendue parce que je trouvais qu'elle était mal représentée en France, et que le bonhomme qui fabriquait ça avait un vrai savoir-faire, donc était défendable. Donc j'ai construit, j'ai creusé dans mon jardin, là, à Romainville, un auditorium pour accueillir uniquement ce système-là. Et j'ai, pendant des années, une quinzaine d'années, j'ai défendu ce système. Puis après, je suis passé à autre chose pour des problèmes humains, on va dire. Voilà, tout simplement. Mais j'ai été conscient, sans en quantifier l'importance, que l'acoustique était fondamentale. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer deux, trois personnes, et ça m'a affiné ou affûté sur l'idée que l'acoustique pouvait se travailler sans forcément sinistrer l'immeuble, accrocher des trucs insupportables visuellement ou contraignants, voire hyper coûteux. La plupart du temps, ces choses-là sont coûteuses. Et donc, j'ai rencontré un mec qui est un Chinois, qui vit à Paris depuis une trentaine d'années, qui est une espèce de, non pas de sixième sens, mais de septième sens, et qui m'a ouvert un petit peu sur l'intégration, sur les problèmes d'acoustique. Voilà. Et on arrive à faire des miracles.
Ça vous a fait revoir vos idées là-dessus complètement,
enfin, ça m'a évolué. J'ai pas remis tout à zéro, mais ça m'a ouvert une autre piste sur l'autoroute. Voilà. Une autre voie.
We'll be right back.
l'impression, il y a tout ça aussi dans tout ce qui est haute fidélité. Il y a une sorte de quête sans fin. Alors, est-ce que c'est une quête qui est finalement juste économique? C'est-à-dire qu'il y a toujours, ce qu'on dit, les nouveautés, il y a toujours des progrès, etc. Mais est-ce que finalement, c'est pas juste quelque chose d'économique ou de mercantile? Est-ce que vous êtes en quête d'une sorte de perfection? Est-ce que c'est un peu comme vous disiez tout à l'heure, on rêve par exemple de piloter une Aston Martin, mais alors on a envie de se dire, le jour où on l'a, très bien, on a atteint ce rêve, mais finalement, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pareil pour la haute fidélité? Est-ce que quand on est heureux d'un système d'écoute, par rapport au lieu, par rapport à... Est-ce que finalement, c'est bon, on a touché...
Je pense que la sagesse, mais c'est, encore une fois, c'est une question de maturité. À un moment donné, on se dégage de tout un tas de trucs et on se dit, ça fonctionne. Je dis souvent aussi, c'est comme rencontrer l'être avec lequel on va partager sa vie. À 20 ans, on court dans tous les sens, ça c'est sûr. 360 degrés, on cherche à 35, 40. Si à 50, on n'a pas commencé à planter des jalons, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Le mec qui a 75 ans cherche encore son alter ego, à mon avis, c'est qu'il y a un problème. C'est pas la peine qu'il cherche, ce mec-là. Voilà. Mais pour un système haute fidélité, je pense, quand je fais le tri dans ce que j'ai chez moi, et ça s'amenuise, hein, je veux dire, la quantité diminue année après année, et je pense que la qualité subsiste. Voilà. Un bon système va vous donner du plaisir pendant longtemps. Et ce qui me fait un petit peu continuer dans cette branche, c'est que quand j'écoute par exemple du vinyle, alors là vous allez hurler parce qu'on est aux antipodes aujourd'hui, on va certainement discuter de la dématérialisation. Je sais pas quel est le mec qui a pondu un jour ce vocable. Dématérialisé, ça vous choque pas ce mot dématérialisé, comme si la musique avait besoin d'être dématérialisée, déshumanisée, vous voyez, déshydratée, désinfectée. Il y a une connotation destructrice pour moi. Et je pense que la musique... Alors, on est confronté aujourd'hui à l'idée que la technologie, de toute façon, fait que la musique sera en restitution meilleure à chaque fois, ce qui est un leurre total. Pourquoi, depuis 3-4 ans, on voit en France un retour magistral du vinyle? Même des gros commerçants comme Virgin ou Fnac, le rayon disque vinyle est en train de s'agrandir. Alors, certains vont vous dire nostalgie.
Parce que les acheteurs sont ceux qui, justement, n'étaient pas nés.
Il y a ceux qui ont la culture. Du vinyle, qui continue d'acheter, comme moi, des choses, même des réimpressions. Il y a les jeunes qui pensent que c'est quand même un peu fun de prendre un truc, de poser sur un machin, une aiguille et tout, que tout ça a quelque chose. Eh ben, je pense qu'ils essayent de retrouver, ils ont peut-être inconsciemment l'idée qu'ils sont en train de perdre quelque chose. J'aime bien, fast-food, c'est sympa, hein, quand on a 14 ans, McDo, machin, les copains, les baskets sans lacets et tout, la casquette, le froc en bas des machines, là. Bon, c'est sympa, on a tous eu nos modes, entre guillemets. Hein. Voilà. Mais je pense que les mômes, ils ont besoin de quelque chose de tactile, de palpable. Là, on est dans le virtuel. Alors, vous prenez votre machine infernale, vous cherchez la version concerto en Ré de Beethoven, ou peu importe, clac. Vous allez afficher 1500 ou 2000 versions. Quand vous serez passé à 1500 versions, c'est-à-dire que vous allez, comme les mômes aujourd'hui, d'une façon frénétique, sans arrêt, jamais vous allez écouter un morceau complet. A fortiori, un opéra ou une symphonie. Vous imaginez, il faut être débile. En téléchargement, tiens, je vais me faire le Ring de Wagner. Mais attendez, il faut être malade aujourd'hui pour faire ça. Faut être malade, il n'y a aucune jouissance. Déjà en vinyle, faut se le manger. À Bayreuth, faut aussi se le manger, c'est très long. Donc, alors, est-ce que c'est une espèce de frénésie? Je pense qu'on est dans l'hyperconsommation de la musique, là. Et à la fois visuelle, d'ailleurs, audiovisuelle, dans les deux secteurs. Hein. Tout ce qui est image et son, on est dans une consommation, une dérive. Les gens savent plus trop quoi faire, d'ailleurs, pour être performant, pour être innovant, surtout pour être concurrentiel sur le marché. Donc là, maintenant, on est rentré dans une course à l'armement, donc la fameuse dématérialisation. Et les gens pensent que dans un téléphone portable, ils vont avoir, c'est sûr, virtuellement, ils vont avoir 3, 4 000, 5 000, 10 000 morceaux de musique. La jouissance, elle est où, là? C'est d'en avoir 12 000, d'en avoir 20 000, 30 000, 50 000, alors que le copain n'a que 42 000.
Combien, en plus, de morceaux ont été vraiment écoutés?
Voilà. L'attrait, alors on joue parce que c'est nouveau, parce que c'est plat, parce que c'est ci, parce que c'est ça, puis après, ça devient vite chiant, hein. Enfin, à mon sens. Et puis, quoi qu'il en soit, vous mettez une quinzaine de personnes dans un studio, dans un petit salon de musique, vous mettez du CD, vous mettez du vinyle, vous mettez du haute définition, non compressé, c'est-à-dire vraiment, si possible, un master, un enregistrement qui a été fait par un mec, en plus un technicien qui a quand même les oreilles bien faites, qui s'occupe pas uniquement des courbes sur son écran d'ordi. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les ingénieurs du son sont devenus aussi un peu des machines dans les studios. Le mec, ils ont des consoles, ils travaillent, ils n'écoutent plus. Ils contrôlent les signaux, les distorsions, enfin tout ce que la courbe du grave ou la réponse du grave ou le délai du grave ou enfin peu importe. Donc les gars sont devenus des informaticiens et ont oublié la quintessence de la musique. La musique, c'est une espèce de long fleuve, quelquefois tranquille, voilà. C'est assez fluide, la musique, ça doit être fluide, ça doit pas être formaté et figé comme une image numérique. Il y a quelque chose, je pense, quand je disais dématérialisé, on perd l'âme, je crois, de la musique, l'âme, une forme d'âme. L'humanité, l'âme, voilà.
Mais est-ce que c'est facile
ce qui fait la jouissance, ce qui fait les petits picotements, vous savez, sur les bras, les choses comme ça, là. Il y a quelque chose qui se passe. Vous avez eu déjà des sensations, vous, quand vous allez au concert, dans un concert acoustique, peu importe, dans un troquet, au cabaret sauvage, je sais pas, New Morning, peu importe la salle, vous êtes à proximité des musiciens, et je parle de musique acoustique, hein. Je ne parle pas de musique retranscrite via, voilà. Il y a quelque chose de magique. Il y a un état gazeux. Vous êtes en harmonie avec les musiciens. Il y a un truc qui se passe. Il y a un véritable échange. Là, j'ai l'impression qu'on est on est dans le virtuel, ouais. L'humain est totalement parti ou est en train de partir.
En même temps, les concerts, les salles de concert sont quand même pleines. Donc les gens ont besoin et d'être une génération.
Exactement. Il y a un retour. Il y a une envie. Il y a une envie justement de voilà. C'est comme
la crise du disque. On n'a jamais autant parlé de musique finalement.
Voilà. Mais tant mieux. Mmh. C'est un peu comme la cuisine moléculaire. On joue avec ça. Puis au bout d'un moment, on dit putain, un poulet de Bresse avec un filet d'huile et puis deux trois machins, c'est quand même meilleur que le truc qui a explosé, qui fait 1 mètre cube, quoi, qu'on est en train de siroter avec une paille. C'est marrant d'aller à Disneyland. Bon, une fois, ça va, quoi. C'est un peu mon idée.
Vous avez évoqué le mot course à l'armement à juste titre. Quand on est dans la haute fidélité depuis des années, vous dites en même temps d'un côté, avec le temps finalement, j'épure, je pense, voilà, je réduis effectivement mon champ d'action. Mais ce que j'imagine de temps en temps, comment vous êtes par rapport à cette course à l'armement qui se passe autour de vous, à côté de vous?
Toujours curieux.
Est-ce que vous, quand on vous parle de choses, vous écoutez, vous testez ou ça vous intéresse?
Non, je suis curieux. Je suis curieux. La preuve, je suis venu avec mon truc extra plat. Là. Ça faisait 20 ans que je repoussais l'investissement ordinateur et tout. Et je me suis dit, bon, pour ne pas finir trop con, je vais quand même me mettre là-dedans. Donc là, je suis dans le cycle depuis quelques mois. J'écoute. J'enregistre quelques trucs, je regarde ce que la musique dite dématérialisée peut me procurer. Alors, il y a indéniablement la facilité, je veux dire, l'accès, la possibilité de jouer sans s'encombrer. Mais je suis encore un peu sur la réserve, parce que même en ayant été le plus objectif possible, aujourd'hui... j'y trouve pas mon compte. Il me manque un truc. Il me manque quelque chose.
On sent une excitation quand même en vous, c'est-à-dire un intérêt.
Ah, forcément.
Voilà, forcément. Okay, on ne vous sent pas blasé par rapport à ça.
Nullement. Puis la technologie, justement, m'a toujours intéressé. Toujours. L'évolution, moi j'ai eu certainement le premier lecteur CD de la planète. Parce que j'habitais 2 étages au-dessous des mecs qui bossaient chez Philips. Et quand ils ont sorti en 80... officieusement leur lecteur CD, bon, bah, j'ai hérité d'un des 4 appareils qui était en France, voilà. C'était révolutionnaire, génial, ouais, c'est grand comme ça, il y a 70 minutes de musique, ça crache pas, ça fait pas
ça
si,
ne s'oreille pas.
Ça se raye.
Oui, ça se raye,
mais pas. Ça sent dommage plus vite qu'un vinyle en plus, si les gens le savaient. C'est plus fragile qu'un vinyle. Bon, peu importe. Donc, c'était une vraie révolution. Et puis, au fur et à mesure, quand on réécoutait le vinyle, on dit bon. Ça dit pas tout l'autre là. Le vinyle, il dit peut-être pas tout, mais ce qu'il dit, il le dit bien. Et ce que dit le CD, il en dit trop, il est trop bavard. Et on n'a pas besoin de tout ça en fait. Voilà. Et quand je disais les ingénieurs du son, il ne faut pas qu'ils se fâchent, hein, ont une tendance à oublier le. On va vraiment vers le super défini, le précis. Le propre et quelque part un petit peu l'aseptisé pour moi. Un peu pour moi. C'est ce qui me. Voilà. C'est le camembert américain, quoi.
Il boit une 8-6. Mini Austin, il sort du périph. Gangsta rap culture, cette musique l'a rendu autiste. Il a rencard avec une fille moitié brésilienne, moitié kabyle. Gogo danseuse, elle dit être artiste. Il connaît toutes les répliques du film Scarface. Le frère, il dit, mes mains, elles sont pas faites pour cette merde. La cité l'a vu grandir, lui a tourné la tête. Parce que, selon le contexte, on confond force et faiblesse. Elle chante, elle rêve de la carrière de Wallen. Elle a perdu tout repère depuis le décès de son père. C'est l'allégorie d'une fille facile qui est assise à la place du mort, qui pense que je t'aime n'est qu'un mouvement du corps. Elle aussi va et vient, se donne et regrette. Ensuite lui kiffe, SMS, elle se pointe de suite. Ils vendent la CC, alors ils jouent les barons, le duc de la cité. Leur cœur bat de concert affective mendicité. Il s'appelle Roméo, elle s'appelle Juliette. Roméo et Juliette.
Il accélère, elle rabat un peu le dossier du siège et lui dit « Tu es belle ». Elle s'engouffre dans le piège, puis dévie, elle dit « En ce moment, je lis Malraux ». Elle a une fausse poitrine et les fantasmes d'une bimbo. Alors, fatalement, ce qui l'intéresse chez elle au départ, c'est pas son cerveau. Elle s'en rend bien compte et se mordit la lèvre. Comme quand gamine, elle joue au cerceau. Ce monde, il est horrible. Et nos gamins, ils y périssent tellement vite, mais on en est tous là. C'est juste l'amour qu'on cherche à vivre. Et si ça part en vrille, c'est que c'est sans modèle. T'es livré à toi-même. Et l'âpreté de la vie ne rend pas forcément meilleurs les caractères. On peut même être sous des apparences contraires, indifférent à l'autre quand la douleur est égocentrée, parce qu'en vérité, c'est sur nous-mêmes qu'on s'est prosterné. C'est juste une métaphore qui pourrait être biblique comme le veau d'or, parce que notre époque est d'accord dans le désaccord. On est déchiré par l'absence et le vide, en prise avec nos paradoxes, le besoin d'amour complique. Il s'appelle Roméo.
Elle s'appelle Juliette. Roméo et Juliette. Elle approche son visage, se rétracte, se demande si au fond, elle-même n'est pas une sorte d'offrande. Sacrifiée sur l'autel de toutes celles qu'on mal, qui souffrent, qui peinent tellement de ne pas avoir confiance en elle. Même si elle sait bien que son « je t'aime » est factice, elle se dit, aux yeux de quelqu'un, au moins elle existe. Lui, il a la main gauche sur le volant, l'autre sur sa jambe à elle. La voiture file. Et leur cœur se fêle. Si elle était sa sœur et lui, un mec quelconque, il retire sa main. À cette pensée passent les vitesses et fonce. En prison, souvent il se disait, quand je sors, je change. Mais dehors, son démon prenait toujours le pas sur son ange. Il tourna la tête à gauche et le camion déboula à droite.
Est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés ou pas? Qu'est-ce que...
Non, ça va.
Ça va?
Ouais, ça va. Le petit qui est passé hier...
Le cordonnier Edgar Morino, donc, qu'est-ce qu'il... qu'est-ce qu'il a chez lui?
Bah, il a deux, trois trucs qu'il défend, parce que, encore une fois, c'est pas l'intérêt économique. L'année dernière, je suis allé en touriste à Munich parce que c'est un salon, c'est un endroit extraordinaire sur la planète. Il y a évidemment le CES de Las Vegas qui est là, c'est le super Disneyland, où on voit tout, on voit...
C'est un concentré
voilà, de l'humanité, voilà, de tout ce qui peut être, voire même caricatural, voire mauvais goût, voire la surenchère, la débauche. Voilà. Mais ça, c'est le côté ricain qui est aussi intéressant. Hein. C'est intéressant de voir le plus et le moins. Par contre, je préfère les Allemands parce qu'il y a une forme de tradition, une forme de culture. Je pense que de toute façon, la musique en Allemagne est plus ancrée. Elle est plus ancrée qu'en France. En France, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la sensation qu'effectivement les salles de concert sont de plus en plus remplies, que les mômes écoutent beaucoup de musique, très diverses d'ailleurs, ont des retours aussi sur des artistes, voilà, en jazz, que ce soit en pop, en rock. Hein. Ça, j'aime bien cette espèce de retour. Je dis, tiens, c'était pas si nul que ça, quoi. Il y a quelque chose à puiser.
Oui, il y a un peu une culture de l'iPod, au sens où quelqu'un va écouter voilà, du rock, puis du jazz, aussi du classique. Avant, c'était peut-être un petit peu plus cloisonné.
C'est peut-être un peu ça. J'ai dit peut-être, hein. J'ai pas assez d'expérience là-dessus. Bon, pourtant, j'ai des petits-enfants qui sont au conservatoire, qui aiment la musique, et qui jouent vachement bien, et qui sont branchés dans ce genre de trucs. Ce que j'aime, c'est, encore une fois, je reviens à la cuisine, c'est qu'ils s'intéressent à la cuisine de la maison traditionnelle, et puis la cuisine des copains, voilà. Les deux... Il y en a un qui boit du coca et qui aime bien goûter un peu le pinard aussi. Voilà. Il y a 14 ans, c'est pas mal. C'est pas mal. Je me dis qu'il va, il doit, il va rentrer dans sa vie avec plusieurs possibilités, on va dire, voilà, plusieurs choix. On propose, après il dispose. Hein. Voilà. Je ne vais pas leur taper dessus en disant vous êtes con, votre téléphone machin chouette, c'est nul, c'est dégueulasse. Non, je dis voilà, ça c'est parfait, c'est un outil d'aujourd'hui, mais il y a ça aussi qui est possible. Qu'est-ce qui vous donne le plus de jouissance, voilà, l'écoute.
Si on reste dans la cuisine, quels sont les chefs, mais alors les chefs en haute fidélité, on va dire plutôt, avec le temps, avec l'expérience, ce côté un peu d'épuré, un peu, et d'aller à l'essentiel, quelles sont les marques, ou peut-être, je ne sais pas, les produits, les objets, précisément, qui restent pour vous, finalement, avec le temps. Vous placez un petit peu quand même au-dessus. Est-ce qu'il y a quand même quelques...
Il y a des... Le gars qui veut se faire plaisir aujourd'hui, il fait simple. Il fait simple. Encore une fois, c'est un peu comme la cuisine. Vaut mieux avoir un bon poulet de Bresse, on en parlait hier midi, là. Un bon poulet de Bresse avec un peu de beurre fondu, une tombée de poivre et tout, passer au four sans rien, plutôt que d'essayer de transformer, je parlais de Botox, de prendre un poulet de batterie et de le couvrir de truffes, de crème et tout un tas de conneries, le poulet sera toujours mauvais. Hein. Voilà, c'est tout. Il sera dégueulasse. Ben oui, voilà. Ça, c'est une tendance aussi à cacher l'esthétisme, la cosmétique. Donc, en faisant simple, on peut aujourd'hui se faire plaisir. La vraie qualité a un coût. C'est indéniable. Par contre, il y a des trucs, alors là, c'est en haute fidélité, il y a des prix qui sont tout à fait délirants, qui sont pas tout le temps, mais souvent surestimés. Le prix des choses, je trouve ça la folie, quoi. Mais ça a permis à quelques-uns, à quelques commerçants de s'enrichir, de faire croire aux gens qui n'avaient pas les moyens que... Tant qu'ils ne mettaient pas 15 000 euros dans un préamplificateur ou 35 000 ou 40 000 dans un ampli de puissance, ils n'auraient pas de musique. Ça sera mou, ça sera ci, ça sera ça. Qu'une enceinte, elle doit avoir au moins 5 ou 6 voix, voire 7. Pourquoi pas 10, 12, qui est une grosse connerie. Parce que déjà, faire une 2 voix, ce n'est pas simple. Accorder une 3 voix, ça commence à être un peu compliqué. Donc après, mélanger un tweeter en diamant, en beryllium, prendre un médium avec de la soie, prendre un grave avec du carbone ou des machins, il y a déjà 3 tonalités là, vous voyez. Compliqué.
Qu'est-ce que vous recommanderiez alors, vous, comme association? Quel est votre poulet de
Bresse? Mon poulet de Bresse, tout de suite, mon coup de cœur qui date de Munich. Je parlais de Munich tout à l'heure. Après avoir vu grosso modo 370 exposants, 373, ça dure 5 jours, c'est bien fait leur truc, c'est bien organisé. C'est intéressant à visiter. Je suis revenu sur un système simple, très simple. qui est fabriqué par des Suisses. Ces gens-là ont la culture, ont le savoir-faire, ont la patience, ont le... comment j'allais dire, beaucoup de recul sur leur job. Donc ils ne sont pas du tout ni prétentieux, ni... comment je pourrais... Ouais, prétentieux. Il y a plein de constructeurs qui sont un peu intégristes. Ce qu'eux fabriquent, c'est bon. Ce que les autres fabriquent, ouais. c'est pas terrible. Voilà. Ça, c'est... Ce n'est pas que français, hein, c'est partout. Ouais. Hein, partout. Les Américains, les Japonais, les... Voilà. Partout. Ça, c'est... La haute fidélité, en général. Donc, ces gens-là, je les ai croisés plusieurs fois à Munich. Je me baladais, je faisais les couloirs, les salons. Quelquefois, je m'arrêtais. Quelquefois, 3-4 secondes devant une porte ouverte. J'ai dit, ça fait pas. Ça marche pas. Ça, c'est pas bon. Ça, non. Et puis, ces gens-là avaient un truc simple. Des enceintes, large bande, avec une chambre de compression. Des platines Torrens. TD-124, 40 ans d'âge, entièrement rénové, amélioré. Des amplis à tubes super puissants, 10 watts, 2 fois 10 watts. Dans une salle qui faisait pas loin de 100 mètres carrés. Et je peux vous dire que ça faisait de la musique, leur truc. J'y suis passé plusieurs jours, j'y suis revenu. Ces gens-là m'ont proposé de me prêter le matériel sans aucun engagement de ma part. C'était au mois de juillet, début juillet l'année dernière. Ben depuis ce temps-là, le truc, il n'est pas débranché de chez moi. Voilà.
C'est quoi cette société ?
Swiss Sonor. C'est bien, on va faire un petit peu de pub.
Ouais.
Pourquoi pas ? Non, c'est vraiment un coup de cœur. Ça va au-delà de l'aspect commercial, de la rentabilité. Ce n'est pas rentable de faire ça. Enfin, pour moi, je pourrais gagner plus d'argent avec d'autres éléments. Mais ça me fait vraiment plaisir de le faire. Ouais. Et chaque jour que j'écoute, hier, on était chez Diapason, on discutait de vinyle avec Thierry, hein. De platine, de signes, d'enregistrement, de Verdi, on était sur Don Carlos, on parlait de Jorof, on parlait de musique, quoi, on parlait de musique. Et les voix, j'insiste toujours sur la voix, le phénomène. Un système, ça se choisit sur une voix. Une image, ça se corrige sur un visage, en extérieur, sur une peau. La colorimétrie, le contraste, la lumière, ces choses-là. Voilà. Et je pense qu'un système, ça se règle sur une voix. À partir du moment où la voix que vous restituez dans votre système, elle est humaine, elle est troublante. C'est-à-dire, quand je dis troublante, c'est que si vous tournez le dos au système et que vous avez l'impression que quelqu'un vous parle, et que vous vous retournez, c'est que le truc, il est bon. Voilà. Pour moi, c'est un critère très simple. À partir du moment où la voix est restituée, le reste, ça devrait aller. C'est évident que sur 4 mètres de large, vous n'allez pas faire rentrer la symphonie des mille de Mahler ou 120 musiciens avec 200 choristes. Vous allez essayer de recréer l'illusion d'espace, de profondeur, d'espace. Voilà. On peut y arriver. De toute façon, le cerveau est là pour se faire un petit peu avoir.
Thank you.
les supports chez vous, donc il y a vinyle, CD.
Ouais. Même maintenant, un peu de trucs là-dedans, voilà.
De musique dématérialisée.
Voilà.
Ce genre de choses. Voilà. Vinyle, d'ailleurs, mon petit doigt m'a dit que vous aviez à un moment, l'anecdote, fabriqué des disques d'or.
Ah, ça, c'est pas une anecdote. Ça, c'est ce qui m'a permis justement d'assouvir ma passion.
Racontez-nous ça.
Ça, c'est une autre facette. Mais on est toujours dans la musique. Ouais. Accidentellement, quand je disais tout à l'heure, en 80, j'ai rencontré, parce qu'il habitait à deux étages au-dessus de chez moi, le juriste international de Philips, qui venait de s'appeler Phonogramme, qui après s'est appelé Polygramme, Universal, maintenant ça réappelle, je ne sais plus comment, enfin bref, c'est pour la petite histoire. C'était... Alors là, on va faire... c'est l'histoire, on va parler de la guerre, là. Philips avait ses studios rue Génère, donc à côté de la gare d'Austerlitz, sont passés boulevard de l'Hôpital, donc pas très loin, avaient un immeuble d'une dizaine d'étages, et c'était les années 70. Il y avait un parfum de liberté, un petit peu comme le phénomène hippie et tout. On rentrait dans une boîte de disques. En bas, ça sentait un peu la fumette. Au deuxième étage, on entendait des boules de flipper. Au troisième étage, il y avait des mecs qui discutaient au effort. Il y avait une ambiance assez sympa, voilà, qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens arrivent le matin, ouvrent le bureau, mettent l'ordinateur en route, regardent les chiffres, combien ça a fait, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça a perdu de son côté, encore une fois, humain. Ouais. Et des gens comme Barclay, que j'ai rencontré plusieurs fois, le père Eddy, lui signait des contrats au bout d'un zinc, dans une boîte, dans un à l'Olympia, peu importe, avec un mec, il parlait comme ça en bégayant un peu, bon petit, tu passes demain, on va enregistrer un truc. Il savait même pas hein, quoi, comment, mais sur le feeling, sur le contact, il savait que ce mec-là, il allait faire quelque chose avec, quoi, voilà. Et il a eu quand même quelques beaux poulains, Barclay, hein. Prenez Neo Garo, faire le panégyrique de la société Barclay. Donc il y avait quelque chose d'assez sympa. Donc maintenant on va arriver au disque d'or. Donc je monte au 10e étage, là où était Monsieur Louis Azan, le PDG de chez Philips à l'époque. Il avait un beau bureau et mon copain, donc, habitait deux étages au-dessus, savait que j'étais quand même pas mal bricoleur. Il me dit il faut que tu viennes chez Loulou. Loulou, c'était le surnom que donnait, comment il s'appelle, Rick Azaraï, voilà, Louis Azan. Loulou. Bon, il faut que tu montes chez Loulou parce qu'il y a un dégât des eaux et ci et ça. Ouais, ok, d'accord, j'y vais. Bon. Et puis je rafistole tout ça, ta ta ta. Et je vois au pied du pilier, là, un disque d'or, cassé. Alors il me dit, vous pouvez me réparer ça aussi. Et je dis, c'est quoi? Bon, c'est un disque d'or, les artistes. Ok, là je commence à... Tac, il y a un petit truc qui se passe dans ma tête là. Je répare et je rapporte le disque de Jojo là.
Qui était fabriqué en quoi d'ailleurs?
Alors c'est une matrice à l'origine qui est dorée, passée en électrolyse. Hein.
Et la matrice de l'album en question?
Oui, absolument. Oui. C'était comme ça à l'origine. Donc, je lui rapporte son truc, son bébé est réparé. Je lui dis, mais c'est toujours comme ça, disque d'or, parce que quand on rentre dans le hall, là, il y a l'hôtesse d'accueil, il y en a 50, ils sont tous 40-50, fond noir, fond rouge, fond bleu. Il me dit, bah bon, pourquoi vous avez une idée? Comme ça, de but en blanc. Je lui dis, ouais, moi, Johnny a l'idée, je le verrai plutôt comme ça. Bon, il me dit, faites-moi, allez voir machin, là, directeur artistique, dites-lui que vous allez faire un test sur le prochain album d'Hallyday. Ok. Et l'histoire a démarré comme ça, j'en ai fait un. J'en ai fait 10, j'en ai fait 100, j'en ai fait 1000, j'en ai fait 10 000, j'en ai fait...
C'était votre quotidien ?
Pendant un moment, on travaillait... Il y avait 6 personnes qui travaillaient quotidiennement. On sortait au moins un projet tous les jours. Il y avait un disque d'or tous les jours, ou de platine, ou de diamant, tous les jours. À faire en un exemplaire, en deux exemplaires, en cinq exemplaires.
Vous récupériez les matrices à chaque fois ?
Ouais. Après, d'horreur, encadrement, après création. Alors, on est parti d'un truc plat, 40-50, immuable. Et puis, on s'est fait plaisir sur des trucs insensés. Parce que dans le showbiz, à l'époque où ils avaient encore un peu de sous, ils en ont toujours un peu. C'était, plus c'était délirant, plus c'était nouveau, plus c'était ci, plus c'était ça, plus ça marchait, quoi. Alors, moi, j'ai démarré à fond là-dedans, vraiment, les années 84, 3, je ne sais plus, ça ne fait rien. On va dire que ça n'a presque 30 ans maintenant. Et ça marchait du feu de Dieu, quoi. Ça marchait du feu de Dieu. Je me suis amusé, je me suis fait plaisir. J'étais sous stress 7 jours sur 7, parce que bosser avec des gens comme ça, c'est fatigant. C'est marrant. Et puis, ça m'a permis de rencontrer pas mal d'artistes. Et on a travaillé, en fait, quand on dit Connemara ou Moreno. Je suis sûr qu'il y a au moins un disque d'or de la boîte dans tous les studios de la planète. Partout. On a fait tous les artistes. Si je cite les Rolling Stones, les Beatles.
Il y en a quelques-uns que vous avez gardés chez vous?
Bon, oui, quand même. Ouais. Mais effectivement, surtout des artistes français. Oh, c'est facile, Gainsbourg. Je veux avoir du Gainsbourg. Je veux avoir De Vos. Brassens, je suis pas sûr, j'ai dû le donner. Ouais, peut-être. Oh, quelques artistes français, ouais. Vraiment des gens avec lesquels il y a eu un petit truc sympa, quoi. Ouais, un échange. Mais je crois qu'on les a tous faits. Tous.
Voilà. Vous avez envie de quoi pour vous, pour Connemara, dans l'avenir? Parce qu'on vous sent pas aigri du tout. Non, on vous sent un peu excité par rapport à cette histoire de dématérialisation.
Ouais, comment on peut, c'est vrai, un peu excité. Ouais.
Il y a aussi cette donnée économique quand même qu'on a évoquée à plusieurs reprises lors de cet entretien, où vous dites effectivement il faut de l'argent, mais parfois pas toujours. Donc non. Peut-être aussi une envie d'amener la haute fidélité et l'audiophilie, peut-être pas un énorme public, mais au plus de monde possible. C'est quoi, vous avez des envies par rapport à tout ça?
Ouais, l'envie principale, c'est d'essayer de transmettre un truc, une idée, sensation. Moi, j'ai eu la chance aussi. Je sais pas, il y a des carrefours. On passe le carrefour, on va à l'autre côté de la rue et ça marche. Et j'aimerais bien que mes enfants, que mes petits-enfants, ils aient cette même jouissance. En se disant, c'est possible. C'est dur. Moi, déjà, quand je bossais, on me disait, voilà. T'as pas de diplôme, t'as pas de machin, t'as pas ci, tu seras... Moi, je me suis fait virer de l'école, en fait. Hein. J'ai démissionné, d'ailleurs, je pense, de l'école. On n'était pas fait l'un pour l'autre. Parce que je me suis souvent entendu dire, ouais, tu n'arriveras à rien. Bon. Et puis, force est de constater qu'on est toujours dans le même état. Je parle de l'éducation, souvent. Ça, c'est quelque chose qui m'excite profondément, plus que la dématérialisation. L'éducation des mômes, c'est fondamental. Donner aux enfants le goût des choses. On a formaté pendant des décennies des informaticiens en oubliant qu'un mec qui devait peindre un plafond ou laquer une porte, il était nécessaire. Un bon plombier, c'était nécessaire. Aujourd'hui, pour trouver un artisan valable, il faut courir. Et quand il est valable, il n'est pas disponible. Et quand il est disponible, il est très cher. Pourquoi? Parce que la rareté, encore une fois, la vraie qualité coûte très cher. Et on a occulté le côté artisan, le côté manuel, comme si c'était vraiment... Et ça me révolte profondément. Et si j'avais devant moi un ministre d'éducation ou de la culture, je dirais, mon pote, il faut commencer par former les mômes. Faites du sport, faites de la musique, faites du dessin, faites des choses comme ça, plus qu'aujourd'hui. C'est vraiment c'est peanuts aujourd'hui. Hein, et c'est en France, ça. En France, alors tous les ans, il y a le petit couplet, on reforme la refonte du système éducatif, chacun met son grain de sel, on n'avance pas. Ça fait 30 ans qu'on n'avance pas et que les mômes, bah pourquoi ils font un peu les cons aussi? Parce qu'on leur propose quoi, les mômes? Tu vas bosser, tu vas te trimballer ton truc, tu vas te faire 5 heures de machin toutes les nuits pour être performant, pour avoir ton bac plus 40. Avec ton bac, qu'est-ce que tu vas foutre avec ton bac plus 40? Rien, pas grand-chose. Tu veux être to be? Non, il y en a trop. 10 ans après, tu veux être to be? Ah ben, il n'y en a pas assez. Et ainsi de suite. Donc, je pense, alors s'il y a quelque chose, et peut-être que la musique m'aide aussi, sur l'idée qu'on doit donner le goût, l'envie aux mômes, le goût, leur apprendre qu'il y a des belles choses, il y a des bonnes choses, et ça aide à vivre mieux. Voilà. Il n'y a pas que le fric. Là, on est dans la société, tout est fric. Fric.
On a dit le mot musique à plusieurs reprises. Vous écoutez quoi en ce moment?
À quelle heure?
Je sais pas, avant de venir ou...
Là, j'ai dégoté, bah, vous regarderez sur votre machine magique, un anglais qui s'appelle Rover, qui me rappelle étrangement les... Vous connaissez? Hein, c'est sympa, ça. Hein,
on vend sur Cobuzz.
Ouais.
Tout à fait.
Bien, j'aime bien. Alors, j'ai eu une espèce de... je ne sais pas si c'est un coup de nostalgie, j'entends quelques mesures de ça, je téléphone à FIP, pas Cobus, parce que j'ai pas encore le truc chez moi. Là.
Ça ne serait tardé.
Et je me dis, tiens, c'est sympa, ça me rappelle effectivement le Velvet des années 70, voilà, les Bowie, les Consoeurs, des gens comme ça, espèce de demi-teinte entre la pop, le rock, le... Je sais pas, ça me plaît, voilà. Ça, j'aime bien. En jazz, c'est très difficile parce que du fait que j'ai une vieille culture, on va dire que j'ai des fondamentaux, j'ai beaucoup de difficultés à apprécier le jazz aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de... À part des sonorités, des alliances ou des alliages nouveaux, il y a, au niveau de la création, de la structure, de la musique pure, en fait, il y a... Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Il n'y a rien de très créatif. Mais c'est normal, ça, c'est toujours... c'est générationnel. Hein. Parce qu'on est, les jeunes, aujourd'hui, qui découvrent le jazz, Melody Gardot ou Norah Jones ou des gens comme ça, bon, ils prennent leur pied. C'est normal. Ils sont un peu mimi. Ils sont... Voilà, c'est dans... C'est tout à fait logique. Moi, je préfère des vieilles chaussures comme Ella Fitzgerald ou Billie Holiday. C'est elle qui me touche le plus. Cette voix toujours totalement déchiquetée, ça me touche encore. Quand c'est bien enregistré, je ne vais pas dire sur un vinyle exclusivement, mais ça marche superbement bien. Ouais, y a quelques trucs. Hein, Dans les musiques jeunes, Abdelmalik, je trouvais le premier album, deuxième album, moi, je trouvais ça super, ça me plaît. Je trouve que ça c'est bien foutu, il y a de l'écriture, il y a de la tomba. Puis j'ai toujours une vieille passion pour la Saint-Mathieu, voilà. Ça pour moi, ça reste une espèce de bible ou d'encyclopédie ou de... je sais pas.
De saintes écritures.
Ouais, ça va au-delà de ça. Je parle pas le côté sacré ou voire profane parce que Bach c'est quand même assez intéressant justement le personnage. J'aime bien cette double casquette. J'aime bien ça. Mais je crois que dans la passion, si on écoute bien, il y a toute l'histoire de l'humanité contenue là-dedans. Tout. Les sentiments humains, tout, pour moi, ça rejaillit. L'égoïsme, la cupidité, la paresse, l'envie, les joies, les douleurs, je sais pas, c'est une grande page d'écriture pour moi, ça me plaît bien.
Donc si on veut écouter toutes ces belles choses, on peut le faire, donc l'auditorium Connemara.
Ah oui, les gens, ils viennent.
Comment
chez
ça
moi.
Se passe. Les gens prennent rendez-vous avec vous, concrètement.
Oui, absolument, oui. J'aime bien que les gens soient tranquilles. J'aime bien aussi avoir mon rythme de vie. Alors c'est mon côté un peu ours. Si je suis pas dispo. Je peux pas être 24 heures sur 24 dispo. J'essaye d'être dispo le plus longtemps possible, le plus souvent possible. Et puis après c'est un plaisir. Ça dure des heures. Ça peut durer des heures. Il y a des gens qui ont dormi chez moi, qui ont mangé chez moi et tout. Parce qu'encore une fois, ça va au-delà du... Au-delà de, bon, qu'est-ce que vous me proposez? Bon, il y a le gars qui rentre chez moi qui veut une chaîne. Bon, il veut s'acheter un truc, il ne sait pas, il fait le tour de tous les auditoriums parce qu'il doute, parce qu'il est plus ou moins bien conseillé, parce que la pub, le marketing font que c'est toujours le couvercle sur la marmite. Et puis après, ben, un premier contact, puis après, ben, je dis, écoutez, on peut avancer un pion si vous voulez, à vous de voir. Moi, je suis là. Si vous avez besoin de conseils, je vous donnerai des conseils. Si vous me posez une question, je vais répondre, voilà. Comme maintenant.
Bien. Donc
c'est pas très complexe.
Les coordonnées sur votre site, j'imagine, tout est indiqué. Donc c'est www.connemara.ifi.
Connemara, c'est Porte des Lilas. Les gens pensent que c'est au fond de la brousse. Quand je leur dis l'hôtel de ville à chez moi, c'est plus rapide que l'hôtel de ville dans le 15e. Un peu laissé, un peu. Voilà. Les gens fortunés ne se font pas piquer leurs belles voitures, parce que c'est dans le 16e qu'on pique les belles voitures et pas dans le 9-3. Ça aussi, ça m'amuse beaucoup. Et j'ai choisi d'aller vivre à cet endroit parce que ça me donnait la possibilité d'avoir de la place, d'être en hauteur. Je suis à 600 mètres de Paris. Il y a un métro. Il y a le prolongement de métro dans pas longtemps. Bon, ça va.
Bien.
Le choix, il est... Alors, il faut être pas forcément courageux, il faut être curieux. Je dis aux gens, vous avez une paire d'oreilles, vous cherchez un système, ce sont vos oreilles qui vont être le juge de paix. La littérature, tout ce que vous lisez dans les revues, tout ce que les uns et les autres vous racontent, c'est une chose. Ça devrait vous permettre de ne pas trop vous tromper, d'avancer. Voilà, ça fait des années que je dis ça. Ça ne change pas. Je radote. Voilà.
Merci Edgar Morino.
Cobuzz.com Rencontre
Haute fidélité
par Marc Zisman.